Radio Larzac, le service Archives et Patrimoine de la ville de Millau, vous amène à la découverte des métiers des archives et du patrimoine. Aujourd'hui, c'est au tour de Françoise Galès, chercheuse et directrice du service Archives et Patrimoine à Millau, qui nous dit tout sur la tour des Rois d'Aragon et le beffroi de Millau.
Là, nous sommes dans la tour des Rois d'Aragon, qui est un bâtiment de trois niveaux, qui a été construit par le roi d'Aragon, d'où son nom, à la fin du XIIe siècle, pour montrer sa domination sur le territoire qu'il venait d'acquérir. Donc c'est un bâtiment de prime abord austère, gris, quadrangulaire, avec peu d'ouverture, hein, avec une pierre de taille de calcaire. C'est un bâtiment qui domine la ville, on ne comprend pas trop. Par contre, quand on rentre par le rez-de-chaussée aujourd'hui, mais en fait on peut rentrer par le premier étage qui est le niveau naturel, on se retrouve dans un bâtiment extraordinaire, avec des ouvertures partout et des systèmes de communication qui sont vraiment très, très, très élaborés. Donc quand on arrive, mettons, par la porte d'origine, on se retrouve face à une grande archère, donc qui est faite de trois grands rouleaux en plein cintre et qui cantonne en fait une ouverture qui est aujourd'hui assez large, qui permettait de protéger la tour au-dessus de la rue droite. En fait, elle est immense. Souvent, en visite, les gens pensent que c'est une fenêtre qui est comparable à ce qu'on trouve dans les églises. Non, pas du tout, en fait. L'objectif du roi d'Aragon, à l'intérieur comme à l'extérieur, c'était de montrer sa capacité défensive. Donc on a cette compréhension de la fonction de la tour déjà quand on arrive. On sait chez qui on tombe. On tourne la tête vers la gauche, on a une petite porte qui conduit au rez-de-chaussée. Là, le rez-de-chaussée, c'est une petite pièce étroite, voûtée, avec des murs de 3 mètres d'épaisseur. Imaginez-vous un petit peu la construction pour un bâtiment qui fait 10 mètres de côté environ et une vingtaine de mètres de haut. Donc on arrive dans cette petite salle qui peut être utilisée comme lieu de stockage, mais aussi comme petite prison. Et en fait, quand on regarde dans la porte, dans l'intérieur de l'ébrasement de la porte actuelle, qui donne sur la rue du Beffroi, on voit qu'il y a un petit aménagement voûté. On ne comprend pas trop, en fait, ce sont des latrines. Donc on revient à notre premier niveau. Donc sur la gauche, on a cette petite porte qui permet de conduire au rez-de-chaussée. Si on regarde sur la droite, on a deux niches contiguës. La première sur la droite est assez bizarre, on ne comprend pas trop, il y a un trou, tout ça. Si on regarde le trou, on voit bien qu'il y a une petite canalisation et qui était reliée en fait avec le sommet de la tour et qui permettait d'avoir l'adduction d'eau à ce niveau-là. Quel luxe, hein. Et on voit bien que nous avions là une grande niche qui abritait un lavabo. En fait, un lavabo pour les ablutions au Moyen-Âge, qui était très importante dans le rite de la réception des personnes. Et quand on regarde sous cette petite niche, vous voyez qu'on a un petit système, une autre petite niche en contrebas, avec un exutoire qui permettait de jeter l'eau à l'extérieur. Alors pas vraiment à l'extérieur en réalité, parce qu'il n'y a pas de conduit à l'extérieur, il y a un conduit ménagé dans l'épaisseur du mur qui permettait de conduire les eaux usées dans un espace voûté en sous-sol. Si on regarde à côté de cette niche, on en a une autre, à peine plus petite, couverte d'un arc en plein cintre également, et qui permettait en fait de déposer les éléments qu'on voulait montrer aux visiteurs. Peut-être qu'on y a disposé la grande charte que le roi d'Aragon a donnée à la ville de Millau pour qu'elle s'administre, qui permettait à la dite ville de Millau, dès le dernier tiers du XIIe siècle, d'avoir des consuls, donc un consulat qui réglait les affaires quotidiennes, tout ce qui était impôts, réception de taxes, qui a été aménagé ou réaménagé pendant qu'au moment des... un couloir qui a été prolongé au moment où la tour a servi de prison sous l'Ancien Régime. Ce n'était pas sa fonction originelle. Au départ, ce petit couloir donnait accès à une autre porte et un petit couloir en chicane, en L, qui conduisait à des latrines, donc des WC. Des latrines et... Selon le même principe que l'exutoire du lavabo dont on a parlé tout à l'heure, on avait le conduit d'évacuation qui était ménagé dans l'épaisseur du mur et qui permettait donc d'évacuer tout ce qu'on peut imaginer dans un sous-sol sans que ça tombe sur la rue, comme on le voit souvent dans des tours du Moyen-Âge. Bien que cet accès soit condamné, on a des éléments qui nous permettent de le comprendre puisque la porte qui conduisait dans cet espace est bouché, on voit bien le bouchage, et on voit bien quand on est à l'extérieur de la tour, la petite ouverture qui permettait de l'aérer. Et surtout, on a le même dispositif au deuxième étage. donc de latrine qui était ménagée au fond d'un petit couloir en L. On continue notre visite du premier étage. Donc on se remet toujours dans la position du visiteur du roi d'Aragon. Et là, de part et d'autre, à droite et à gauche, nous avons deux grandes arcades en plein centre. Une qui est accessible par des marches en pierre, donc un escalier. À gauche, nous avons le passage qui relie la tour des rois d'Aragon à l'hôtel de Thoriac, qui est l'accès actuel. Donc ces deux niches étaient de même niveau. Celle de gauche a été complètement remaniée, vous le voyez, on a un linteau de bois qui ne correspond pas du tout à l'organisation initiale. Et ces deux niches, en fait, étaient probablement ouvertes sur l'extérieur, mais surtout, elles donnent accès toutes les deux à des escaliers en vis qui sont ménagés dans les angles de la tour. Seul l'escalier de droite, de la niche de droite, a été conservé, celui de gauche a été condamné. Je laisse aux plus curieux des auditeurs le soin de venir voir sur place. Mais en tout cas, cet escalier ne conduisait pas au deuxième étage comme celui qui est conservé, mais menait en fait au dernier niveau de la tour. Pourquoi est-ce qu'on a deux niveaux comme ça, deux escaliers qui desservent l'un le rez-de-chaussée et le dernier niveau, et l'autre simplement le dernier niveau? C'est qu'en fait, le deuxième étage de la tour pouvait servir de salle de détention. Au deuxième étage, la distribution était grosso modo identique à celle qu'on a en partie inférieure au premier. Sauf que, quand on rentre, on se rend compte qu'on peut fermer la porte depuis l'extérieur. Ce qui fait qu'en fait, cette pièce pouvait être transformée en prison. Alors prison, pas pour un petit vassal, mais plutôt pour l'ennemi du roi d'Aragon, qui était le comte de Toulouse alors. Donc une fonction assez intéressante pour cette tour, qui montre en fait ce que le roi d'Aragon envisageait pour elle, à savoir dominer le territoire, montrer qu'il était là, mais montrer aussi que cette tour pouvait servir de prison pour son ennemi. Qu'est-ce qu'on fait de ce patrimoine aujourd'hui ? C'est vrai que c'est assez difficile, puisque c'est une tour, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui est assez austère de l'extérieur. Donc, il faut trouver des moyens de la rendre accessible au public. On organise des visites guidées régulièrement avec l'Office du tourisme. On fait des visites pour les associations culturelles qui font la promotion, elles aussi, de ce patrimoine parce qu'elles le comprennent mieux. On publie des documents qui sont gratuits, les focus du patrimoine. On fait des visites à destination du jeune public, des visites pour les classes, des visites pendant les périodes pendant les vacances scolaires. Les animateurs du patrimoine ou les animateurs même des centres sociaux, les animateurs des centres aérés travaillent avec nous, font visiter le bâtiment aux plus petits. Donc l'idée, c'est ça, c'est de faire visiter au plus grand nombre. L'autre moyen, évidemment, c'est de l'ouvrir au public le plus longtemps possible dans l'année. Alors cette année, on a essayé d'ouvrir dès le mois de mai, et le bâtiment fermera ses portes fin octobre, donc des ouvertures assez longues. Pour comprendre un tel bâtiment qui s'inscrit dans l'histoire, il faut procéder par étapes. D'abord, on va aux archives. Et on cherche toute la documentation possible qui le concerne. La difficulté, c'est que le bâtiment peut changer de nom dans la durée en fonction de son usage et de la manière dont les hommes qui l'ont utilisé l'ont perçu. Aujourd'hui, on l'appelle le beffroi. En fait, le beffroi, c'est la partie polygonale qui est au-dessus. Ça fait référence à un beffroi de charpente qui porte le clocher. Le clocher qui a été construit au XVIIe siècle. Et donc, ce n'est pas du tout la vocation d'origine de cette tour. Donc, bon, voilà, récupérez toutes les archives, des origines jusqu'à aujourd'hui. Essayez de décortiquer pour savoir comment elle a été utilisée, à qui elle a appartenu, pour avoir un peu une idée de son histoire. La deuxième étape qui est indispensable, c'est de faire une étude d'archéologie du bâti. Donc, la dessiner en élévation, en coupe, faire des dessins de détails et essayer de regarder quels sont les matériaux qui ont été employés, les noter, vérifier, voir s'il y a des correspondances avec des bâtiments dans la ville, des bâtiments sur le territoire, des bâtiments contemporains, et essayer de rapprocher ce qu'on voit à l'histoire. Voilà, c'est un travail de très longue haleine qui nécessite d'avoir fait des études ad hoc, bien sûr, et beaucoup d'opiniâtreté.
C'était Françoise Gallès qui nous a offert cette visite sonore de la Tour des Rois d'Aragon et du Beffroi de Millau. Ce monument est ouvert aux visiteurs jusqu'au 28 octobre, alors ne tardez pas à aller voir ce symbole historique de Millau.